France Inter.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien Vous Fasse, tous les jours de 10h à 11h. Et ce matin, comment réussir sa recherche généalogique? La généalogie, l'un des trois loisirs préférés des Français, avec le jardinage et le bricolage, une activité prisée à travers le monde. Et comme le rappelle l'une de nos invitées, Marie-Odile Merniac, bien souvent tout commence avec une boîte de photos retrouvée chez un aïeul, ou avec une rumeur familiale autour d'un glorieux ancêtre, ou encore par la connaissance fortuite d'une parenté inattendu. Alors comment bien débuter son enquête généalogique? Comment utiliser les bons outils? Quelles sont les erreurs à éviter? Comment construire un arbre généalogique quand ses ancêtres viennent d'un autre continent? Comment les enfants et les ados peuvent également se lancer? Et puis pourquoi faire son arbre généalogique fait du bien en cette période instable? Nos invités vont vous aider à y voir plus clair. Racontez-nous comment se sont passées vos recherches, qu'avez-vous découvert, quelles ont été les bonnes et les mauvaises surprises, quel bienfait a eu cette enquête sur vous et sur votre famille, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer. N'hésitez pas à témoigner et à poser vos questions au standard et sur WhatsApp au 01 45 24 7000, sans oublier l'appli Radio France où vous pouvez laisser des notes vocales. Bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Grand Bien Vous Fasse, Ali Rebéi.
Bonjour Marie-Odile Merniac.
Bonjour Ali.
Vous êtes historienne et généalogiste. Vous avez publié chez Erol un outil très pratique, la généalogie, explorer, comprendre et partager son héritage familial. Bonjour François Baron.
Bonjour Ali.
Vous êtes généalogiste, vous êtes administrateur de la Fédération française de généalogie et vice-président de l'association Les Jeunes et la Généalogie.
Tout à fait.
Bonjour Mayalène Berassategui.
Bonjour.
Vous êtes historienne, vous travaillez chez Généanet, un site d'aide à la recherche généalogique, et vous avez publié chez Librio, la généalogie pas à pas, comment retrouver ses racines aujourd'hui, redécouvrir son histoire et à travers elle, celle du monde. Alors tout d'abord, comment expliquez-vous cette formidable appétence des Françaises et des Français pour la généalogie, Marie-Odile Merniac?
Alors, selon moi, puisque les avis peuvent être différents, c'est vraiment l'essor de la société de loisirs, du temps libre, qui nous a procuré cette appétence pour la généalogie, puisque il fallait, avant les années 2005-2010, on n'avait pas beaucoup d'éléments sur Internet, il fallait se déplacer, donc il fallait du temps. Et on constate que l'essor de la généalogie dans les années 80 se fait au fur et à mesure que le temps de loisir s'accroît. Et on a un sociologue, Dominique Desjeux, qui avait fait une énorme enquête en 2011, donc ça commence à dater un petit peu, mais déjà en 2011, il constatait que c'était principalement l'enthousiasme qu'on pouvait avoir dans la recherche. Mmh. On se transformait en fait en Sherlock Holmes de l'histoire, qui était le moteur principal.
François Baron, on parle aussi des conséquences et divers déracinements qui ont marqué le XXe siècle, l'exode rural, l'urbanisation. On parle aussi des nouveaux modes de vie, les divorces, les recompositions familiales qui poussent à rechercher ses racines.
Oui, ça peut être un élément de stabilité que de rechercher ses racines. Bon, moi, je considère que la généalogie, ça peut s'apparenter à la généalogie, c'est-à-dire que c'est un jeu.
Un
jeu de piste. C'est à la fois une enquête de police et un puzzle. Vous faisiez une émission il y a quelques temps sur l'émerveillement, c'est aussi un moyen de s'émerveiller.
Mayalène Berassetagui.
Je pense que vos deux réponses sont tout à fait justes. C'est-à-dire que je pense qu'au départ, il y a des questions, de toute façon, des questions. Et puis après, il y a, est-ce qu'on a le temps de répondre aux questions? Et effectivement, on a beaucoup plus le temps de répondre aux questions qu'avant, ou c'est beaucoup plus rapide de répondre à certaines questions qu'avant. Et c'est ça, effectivement, qui explique qu'on ait plus de gens. Mais je pense que ça fait très longtemps que beaucoup de gens ont, en fait, beaucoup de questions.
Et puis, Marie-Odile Merniac, certains éléments déclencheurs, certains événements déclencheurs peuvent pousser à se lancer dans une recherche généalogique, une réunion de famille, où l'on croise de lointains cousins ou aïeux, le petit arbre généalogique que vos enfants ou petits-enfants vous demandent d'établir, ou encore le décès de la génération qui vous précède.
Voilà, et puis effectivement, il faut vider la maison et on retrouve des papiers, on retrouve des photos. Et d'un seul coup, c'est peut-être, pour rejoindre François, une façon de retenir aussi ceux qui sont partis, et puis de se lancer dans une enquête. Et comme c'est très amusant, une fois qu'on y a mis le doigt, c'est vrai qu'on y passe tout entier, en général.
Pourquoi ça fait du bien de se lancer dans un arbre généalogique, Marie-Odile Merniac ?
On découvre tellement d'aventures extraordinaires vécues par nos ancêtres, aventures douloureuses, aventures sympathiques ou autres, que ça nous aide à relativiser aussi notre propre contexte, notre propre position. Et puis...
François Baron.
Et ça développe notre imagination. Mmh. C'est-à-dire qu'on se construit un film aussi, à travers des éléments concrets, c'est-à-dire des éléments d'archives concrets. On se construit un film. Donc on est un petit peu nous-mêmes réalisateurs d'un film qu'on n'a pas forcément les moyens de mettre en image, mais c'est ça aussi.
Maïlène Berassategui, pourquoi ça vous fait du bien et pourquoi ça fait du bien aux gens qui fréquentent le site dans lequel vous travaillez, Généanet ?
Alors, pour tout un tas de raisons, ça permet de créer du lien, parce que souvent vous retrouvez des cousins, vous répondez ensemble à des questions que vous cherchez ensemble. C'est en vrai extrêmement addictif, on va pas se mentir. Vous avez deux catégories de gens, vous avez les gens qui essayent, qui se rendent compte que ça les barbe et qui arrêtent relativement rapidement, et vous avez ceux qui accrochent, et ceux-là, 20 ans après, ils y sont toujours. Donc c'est l'addiction, le sentiment de faire partie d'une communauté... le sentiment de pouvoir répondre à des questions, et même dans les familles où on pense qu'il n'y a rien, où on pense qu'on est paysan dans le même bled depuis 1502, il y a toujours des trucs. Il y a toujours quelque chose.
Moi, à titre personnel, ça m'a fait du bien de découvrir que mon ancêtre arrière-grand-père maternel, Saad Abouzid, avait reçu la plus haute distinction militaire, la médaille militaire, après la Première Guerre mondiale. Et donc, de retrouver cette généalogie, grâce à vous, notamment, François Baron, vous aviez fouillé les archives de la Défense nationale. Mmh. C'est vrai que ça fait du bien.
Oui, tout à fait. Moi, je dis toujours, ça nous aide à nous construire. Au lieu de faire une psychanalyse, peut-être que c'est pas mal de chercher ses ancêtres, des fois.
Bon, et c'est moins coûteux.
Et c'est moins coûteux.
Et nous accueillons Émilie. Bonjour Émilie, bienvenue.
Oui, bonjour.
Bonjour. Vous appelez d'où, Émilie ?
Moi, je suis en Creuse.
Très bien. Alors, vous êtes lancée dans la recherche généalogique ?
Oui, depuis très longtemps. Mais là, il vient d'arriver quelque chose, un événement extraordinaire. Mmh. Donc, ma famille est de l'Est de la France. Et mon grand-père était, par son métier, faisait des voyages fréquents en Allemagne. Mmh. Et il a eu une liaison extra-conjugale. Mmh. Il a eu un fils. Et peu avant la guerre, ce fils est venu le voir pour lui demander un certificat de filiation. Parce que, sous le régime nazi, c'était très compliqué de ne pas avoir de père. Mon grand-père lui a refusé. Et moi, j'ai toujours été terrorisée à l'idée que cet homme avait pu être martyrisé, tué ou autre. Et ma sœur a fait une analyse ADN. Mmh. Et récemment, cette société, il y a un mois, lui écrit pour lui dire « Vous avez certainement une cousine germaine en Allemagne. » Et depuis un mois, nous correspondons. Oui, c'est bien la fille de cet homme-là, donc la petite-fille de mon grand-père, donc ma cousine germaine. Et j'ai été bouleversée de savoir que cet homme avait vécu, qu'il avait eu une fille, que cette fille a elle-même deux enfants. Et on souhaite se voir, et c'est une histoire que je trouve extraordinaire. Ça m'a un soulagement, mais énorme, de savoir que cet homme avait vécu.
On entend ce soulagement, Émilie.
Oui,
quelles conséquences dans votre famille, justement ?
Eh bien, toutes mes sœurs suivent ça. J'ai écrit à mes neveux et nièces pour leur produire cet échange de lettres que nous avons eu avec notre cousine. Et l'un de mes neveux m'a dit « Ah, je me demandais ce qu'il s'était produit, ce qu'il avait pu se produire dans cette branche que je ne connais pas. Et là, tu m'apprends quelque chose. Et quel événement, quel fameux événement. »
Le témoignage d'Émilie est très éclairant, Marie-Odile Merniac, parce que vous dites une chose très juste dans votre livre. « Commencer son arbre généalogique, c'est se transformer en enquêteur de l'histoire. » Et là on a un cas merveilleux avec Émilie.
Oui, une enquête et puis un dénouement heureux. Là, elle découvre que la personne finalement a survécu, la personne dont elle avait gardé le souvenir enfant. Et puis, vous voyez, la généalogie, c'est aussi bien trouver des cousins contemporains que remonter le temps en s'amusant et en ayant cette impression d'éternité. C'est aussi ça que nous donne la généalogie. On est le maillon d'une chaîne qui va se continuer après nous et qui a commencé il y a bien longtemps.
Maïlène Berassategui, sur le témoignage d'Émilie.
C'est touchant, c'est très touchant de voir se retrouver comme ça des gens qui auraient pu avoir été perdus et ne plus jamais se retrouver. Et j'aimerais aussi prendre une seconde pour parler des gens qui font le même type de test, mais dans une espèce d'innocence, mais on en parlera peut-être plus tard, absolue, juste parce qu'ils veulent connaître leurs racines et qu'ils se rendent compte qu'en fait, il y a un secret de famille dans leur arbre. et qui sont un peu dans une situation qui partent du même point mais qui n'arrivent pas du tout à la même arrivée.
François Baron.
Oui, il y a des événements. J'ai eu une élève pour laquelle une découverte familiale proche a changé totalement sa perception de la famille. Ayant vécu 40 ou 50 ans sur une histoire inventée et qu'on a rétablie, et là ça changeait complètement le sens de la vie et les relations qu'elle avait avec ses cousins, ses parents, donc ça peut être aussi très déterminant.
Merci beaucoup Émilie de nous avoir appelé au 01 45 24 7000. Nous accueillons Noé Brabant. Bonjour Noé.
Bonjour.
Vous collaborez à cette émission et en discutant au bureau hier, vous m'avez dit que la recherche généalogique vous intéressait, et je précise que vous avez 25 ans.
Eh oui, 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 je suis jeune et ça m'intéresse quand même la recherche généalogique, parce que, en fait, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est le côté géographique de la question, parce que je sais que j'ai de la famille dans le sud-ouest, alors que moi, je viens de Lorraine d'origine. J'ai quelques branches, voilà, du côté de Saint-Gaudens, de Mirepoix, voilà, en Haute-Garonne. en fait, voilà, je vois des photos de famille pendant les réunions et il y a beaucoup de personnes sur ces photos qui datent de 1930-40 où je connais simplement pas les prénoms. Et enfin, je me dis quand même, ce serait bien de connaître, de savoir l'histoire de pourquoi ils ont bougé en Lorraine, pour mon cas. Voilà.
Ça, c'est pour vous, François Baron, parce que vous êtes vice-président de l'association Les Jeunes et la Généalogie.
Tout à fait. D'ailleurs, je vais embaucher.
Ouais. Avec grand plaisir.
Vous avez une question ?
Oui, je me demandais, moi, qui suis jeune, est-ce que c'est pas un peu ringard pour moi de m'intéresser à la généalogie ?
Non, pas du tout. Pas du tout. Non, pour s'intéresser à la généalogie, je pense qu'il faut déjà être curieux. Et non seulement être curieux, mais être imaginatif et à l'écoute des autres, parce que c'est aussi un excellent moyen de faire des rencontres. La preuve, quand on fait des émissions sur France Inter, on rencontre plein de gens. Donc, il n'y a aucun caractère ringard. Nous, on donne des cours, on fait des ateliers de généalogie avec des enfants de CM1 ou CM2.
Vous n'êtes pas ringard, Noé Brabant. Et nous accueillons Marc. Bonjour Marc.
Bonjour.
Bienvenue. D'où appelez-vous?
Merci.
Marc,
de Gap, dans les Hautes-Alpes.
Alors, quelle est votre question, votre témoignage?
Alors, c'est un témoignage sur mes recherches généalogiques. J'ai commencé, j'étais au lycée en seconde, un prof d'histoire géo nous avait demandé de faire des recherches sur deux, trois générations. Et ça m'avait fasciné. J'ai poursuivi sur 9 générations. Et par la suite, je me suis marié. Et pour ma femme, j'ai fait le même arbre sur 8 générations, représenté donc au mariage. Et à la suite de ça, j'ai un ami qui s'est marié, et pareil, j'ai fait des recherches également pour lui et sa femme sur 8 générations. Alors là, par contre, quand j'étais en seconde, j'y allais à vélo de village en village, puisque c'était dans le même quartier. Mais pour mes amis, c'était par Internet et par courrier.
Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ces arbres généalogiques? Qu'est-ce qui vous passionne dans ces recherches?
Eh ben, c'était déjà l'endroit où il vivait, les métiers qu'il a pu y avoir. Et puis, quand on se rend sur les mairies, on voit les signatures des ancêtres. Et on voit également quelques témoignages sur l'endroit exact où il vivait. Et donc, il y a tout ce côté histoire qui m'a passionné.
Maïlène Berassetagui, sur ce témoignage.
Ben c'est exactement ça, c'est-à-dire que même quand vous n'avez pas forcément, on parlait de grands événements, de grandes migrations, d'exodes, même quand il n'y a pas forcément beaucoup de mouvements, vous avez accès à énormément de sensations physiques. Alors moi maintenant, parce que beaucoup de choses se font en ligne, mais toucher le papier, toucher la signature de vos ancêtres, savoir à quoi ils ressemblaient physiquement, savoir quels événements ils ont pu vivre, en fait on peut très très vite, en croisant différentes sources, aller au-delà de juste une date de naissance, une date de mariage, une date de décès, rien d'autre.
François Baron.
Et puis quand on cherche, on trouve. Et quand on trouve, en général, ça génère une sécrétion de dopamine qui est la molécule du plaisir.
Et d'ailleurs, François Baron, parce que Marc a commencé un arbre généalogique en seconde, quand on fait de la généalogie avec des enfants ou des ados, vous écrivez que c'est regarder en arrière pour aller de l'avant.
Oui, c'est effectivement ça. Les enfants ont besoin de se construire, aussi bien les adolescents que les plus petits en CM1, CM2, voire avant. Ils ont besoin de poser des questions, de savoir que faisaient leurs parents, leurs grands-parents, et la transmission, elle se fait beaucoup par les grands-parents, puisque c'est la génération qui reste avec nous, alors voire éventuellement maintenant les arrière-grands-parents, compte tenu de la longévité, mais non, c'est des questions qui se posent beaucoup, et ça fait partie des cours d'éducation morale et civique, par exemple, ou du programme de CM2, de parler de la famille.
Merci beaucoup Marc de nous avoir rappelé, merci Noé d'avoir témoigné. Alors, racontez-nous comment se sont passées vos recherches généalogiques, qu'avez-vous découvert, parfois de très surprenant, quel bienfait a eu cette enquête sur vous et sur votre famille, n'hésitez pas à témoigner au 01 45 24 7000 au standard et sur WhatsApp, sans oublier l'appli Radio France où vous pouvez laisser des notes vocales. Dans un instant, comment se lancer tout seul, quels sont les premiers pas et les erreurs à éviter. Ce sera juste après avoir écouté Michel Polnareff, Love Me, Please Love Me, une chanson sortie en 1966, 10h21 sur Inter. Temps très très froid, qu'est-ce que ça ferait du bien? Un petit slow avec Michel Polnareff, Love Me, Please Love Me.
Ali Rebéi.
La famille, ça va?
Ça va, Imhotep.
Mais ta soeur, comment elle va ta soeur?
Grand bien vous fasse.
Ça va, Imhotep.
Et ton cousin, qu'est-ce qu'il devient ton cousin?
Sur France Inter.
Ça va, Imhotep.
Et ce matin, dans Grand Bien vous fasse, comment réussir sa recherche généalogique avec les généalogistes Marie-Odile Merniac, Mayalène Barasategui et François Baron. Alors, comment débuter son arbre? La tâche peut sembler vertigineuse. Par quoi commencer, Marie-Odile Merniac? Trois types de recherches s'offrent à nous. Tout d'abord, la recherche en ligne directe masculine de tous les ascendants qui portent votre nom. Expliquez-nous. Alors apparemment, c'est la recherche la plus rapide.
C'est la recherche la plus rapide. Ben, effectivement, quand on se lance, parfois on se dit, voilà, je m'appelle Merniac, je souhaite retrouver, on peut remonter un demi-millénaire sur la France, je souhaite retrouver 500 ans de, de Mergnac. Qui était-il de génération en génération, le plus rapidement possible? Et maintenant, avec Internet, sauf enfant trouvé ou surprise, on peut, en 48 heures, c'est fait, on est à François 1er, en gros. Après, une fois qu'on a fait ça, si ça nous a plu, le risque, comme on l'indiquait tout à l'heure, c'est qu'on se dise, après tout, le père, ok, mais j'ai une mère, et j'ai des grands-mères, et on va vouloir chercher les ascendants de toutes les générations. Ça s'appelle une recherche par quartier. Donc, le côté pratique, c'est un petit peu comme un mot croisé géant. On a deux cases, un couple, et puis au-dessus, on a quatre cases, et dès qu'on trouve une case, on a à nouveau deux cases à compléter. C'est absolument interminable. Et ça, on peut y être encore 20 ans plus tard, en cherchant l'histoire. Et le must, c'est la recherche totalement exhaustive, c'est-à-dire qu'on cherche également les frères, les sœurs, les cousins, les descendants, et on peut
c'est-à-dire
se retrouver...
qu'on s'intéresse avec la recherche exhaustive aux aïeux directs, à leurs frères, à leurs sœurs et à tous leurs ascendants, c'est ça ?
À tous leurs ascendants, mais aussi à tous leurs descendants.
Mais on peut commencer par cette recherche exhaustive. Moi, ça me paraît complètement vertigineux, Mayalène Berasategui.
Bah, si, on peut. On a différentes manières de faire, mais généralement, on peut aussi aller vers ce qui est le plus... Pour débuter, vers ce qui est le plus simple. Vous allez avoir des branches qui vont être assez faciles parce que les gens n'ont pas trop bougé, parce qu'il n'y a pas 50 000... Parce que des fois, les noms changent d'orthographe, par exemple. Et là, vous avez des noms qui restent relativement stables et des noms qui changent beaucoup. Donc, vous allez aller vers vos branches les plus simples, vous allez commencer à compléter vos trucs, et puis progressivement, vous allez prendre un peu du galon, et après, vous allez vous attaquer aux branches où vous avez un peu plus de blocage.
Alors, est-il vrai que l'état civil n'est pas consultable s'il a moins de 75 ans? François Baron.
Il n'est pas consultable. Oui, effectivement, c'est une barrière qu'on retrouve d'ailleurs sur des sites comme Généanet où on ne met pas de date de plus de 60 ans, mais on dépasse très rapidement cette possibilité-là. Hein. C'est...
Oui, et puis en France, on a aussi la chance de pouvoir demander les actes de décès par rapport à d'autres pays.
Donc,
quand la personne est décédée, vous avez la date de décès, le nom de la personne, vous pouvez le demander, donc vous avez quand même des informations sur sa naissance, sur ses parents, ce qui n'est pas forcément possible dans d'autres pays.
Ça protège l'individu, mais ça n'a pas un obstacle majeur pour démarrer sa généalogie. Non.
Comment vous faites avec les enfants pour démarrer un arbre généalogique? Comment vous y prenez? C'est quoi le premier atelier? Ça peut nous servir, nous, alors nous autres adultes.
Le premier atelier, c'est pas leur arbre généalogique, puisque souvent ce sont des enfants qu'on rencontre deux heures sur un atelier. Donc on prend l'exemple d'un personnage célèbre de la commune, ça leur fait aussi découvrir leur commune. Il y a un soldat de la guerre de 14 sur le monument aux morts, où ça peut les inciter à aller sur le monument aux morts avec leur enseignant. Ça peut être... en général, ce n'est absolument pas sur leur propre généalogie. Ce n'est pas possible. On ne peut pas prendre 20 gamins ou 30 gamins et leur faire leur généalogie en deux heures. En plus, ça poserait des problèmes compliqués d'autorisation parentale.
Est-ce qu'on peut commencer son arbre généalogique par une enquête auprès des grands-parents, des arrière-grands-parents, Marie-Edith Mergnac, les grands-oncles, les grands-tantes, les cousins les plus âgés? On peut commencer comme ça?
Il faut commencer comme ça, puisqu'on a ce barrage des 75 ans, même des 100 ans. En dessous de 100 ans, presque rien n'est sur Internet. Et par exemple, j'avais commencé à 12 ans, tout simplement parce que je m'ennuyais ferme pendant les vacances scolaires, et que pendant les vacances scolaires, j'étais chez mes grands-parents, où il y avait des arrière-grand-mères qui étaient centenaires, ou quasiment, et qui avaient toute leur tête. Et donc j'avais fini par découvrir que si on les interrogeait, elles avaient quantité d'histoires extraordinaires à raconter, mais elles avaient connu leurs propres grands-parents, leurs arrière-grands-parents avaient fait les campagnes de Napoléon. Donc ça file très vite, et puis ça donne des choses passionnantes pour un enfant. On leur fait sortir les photos, on leur fait raconter, alors que sinon...
Et puis il y a des documents passionnants, ce sont les livrets de famille, et puis également des actes civils qui sont demandés à l'occasion d'une recherche administrative et qui dorment dans un tiroir ou dans un carton. Ça, c'est très intéressant.
Oui. Les livrets de famille sont nés après la destruction de l'État civil parisien, parce que tout était parti en fumée en 1871, et ce livret de famille récapitule trois générations. Donc, un couple, on a les noms des parents et puis les noms de tous les enfants et leur devenir, s'ils sont décédés avant 18 ans, par exemple, c'est inscrit.
Et nous accueillons Elisabeth. Bonjour Elisabeth, bienvenue.
Oui, bonjour.
Alors, vous appelez d'où d'abord? Et bonne année aussi. Bonne année à tous nos auditeurs qui nous écoutent ce matin et qui nous appellent au standard.
Oui. J'appelle de New York.
Alors, est-ce que vous avez entrepris une recherche généalogique?
Alors, il y a très longtemps, dans les années 70, j'ai commencé parce que ma mère, qui était une tondue de la Révolution, n'importe quoi.
vous auriez un sacré âge, là.
Je suis vraiment dans mon truc, là, vous voyez. Non, c'était une tondue de la Libération. Mm-hmm. Et donc, elle avait besoin de reconnaissance et elle me racontait que nous avions du sang bleu, évidemment, par la main gauche, parce que machin avait couché avec le duc de machin, et que, voilà. Ça m'a énervée, parce qu'elle me racontait pas mal de trucs comme ça, et la famille, c'était tous des maçons, et puis si vous remontez plus loin, laboureurs, etc. Enfin, bref. Et donc, ça m'a énervée, et je l'ai emmenée aux archives départementales. Donc, dans les années 70, il n'y avait pas Internet. Et donc, je la collais devant un registre en disant « Bon, tu vois, on a trouvé que truc était né à tel endroit. Tu me fais tout le registre, là, tu cherches tout avec le nom. » On a fait comme ça. Bon, j'avais trouvé pas mal de choses. Et en plus, je suis allée à l'époque rencontrer énormément de gens qui étaient vieux à l'époque. Hein. Mm-hmm. Alors, vous voyez, 70, et qui me racontaient. Qui me racontait dans la famille, tout ça, voilà. Et j'ai pris des notes. Et ça s'est revenu dans les années, il y a une dizaine d'années. Je me suis inscrite à une société généalogique. Mmh. Et du coup, j'embêtais beaucoup les gens en leur posant des questions, mais je comprends pas, enfin bref. Et du coup, je me suis inscrite également, mais depuis cette année seulement, à Généanet. Et avec ça, on remonte à beaucoup de choses, d'autant plus que on a la photocopie, le scan des pages de registre. Et je suis remontée aux années, enfin fin XVIIe siècle.
Est-ce que vous avez du sang bleu finalement, Elisabeth ?
Mais non, ou alors c'est bien caché.
Bien caché. Merci en tout cas de nous avoir appelé, Elisabeth. Elisabeth parle des archives départementales. Mayalène Berasetegui, expliquez-nous le rôle très important de ces archives départementales.
Alors, il ne faut pas hésiter à y aller, parce que maintenant, on a un peu l'impression que tout est sur Internet, que ça commence par Internet, ce qui n'est pas faux. Mais les archives départementales, du coup, conservent les archives publics et aussi des archives privées qui ont été produites depuis qu'on a des archives, donc depuis le Moyen-Âge en général, par département. Et donc si vous allez là-bas, c'est là-bas que vous allez trouver, c'est là qu'est l'état civil qui est numérisé en ligne aujourd'hui, mais c'est aussi là-bas que vous allez trouver tout ce qui est archives judiciaires, archives militaires, registres notariés, plein de ressources qui sont complètement complémentaires à ce que vous allez trouver sur Internet. Et donc vraiment, n'hésitez pas, les archivistes sont super sympas. Ne vous dites pas, je ne suis pas historien, je ne peux pas y aller. On a la chance d'être en France et d'être dans un pays où les citoyens ont constitutionnellement le droit d'accéder aux archives. Utilisez-le.
Et il y a aussi les archives du service historique de la Défense, les archives diplomatiques. François Baron ?
Oui,
les sources sont très nombreuses.
Sources sont très très nombreuses. Les dépôts d'archives aussi, d'ailleurs. Je crois qu'il y en a 560 en France, tout confondu. Donc il y a de quoi faire. Mais oui, pour revenir sur la fréquentation des archives, c'est un élément important parce que, par exemple, les archives notariales ne sont pas numérisées ou très peu. Enfin, je connais un département qui a commencé à numériser quelques minutes notariales. Ce sont les Yvelines, mais c'était tout à fait exceptionnel. Donc il faut aller dans les archives.
Oui, parce que les archives notariales vous font découvrir le quotidien de vos ancêtres. Vous pouvez savoir votre aïeule paysanne de 1720, si elle avait des robes bleues ou rouges, et combien de casseroles elle avait dans sa maison, et quelle était la taille de sa maison, et les meubles qu'elle avait. C'est extraordinaire quand on découvre ça. Enfin, c'est extrêmement touchant.
Moi qui travaille beaucoup sur les moulins des Yvelines, quand on découvre un acte notarié, un inventaire après décès par exemple, on a l'impression d'être dans un jeu sur une console, comme les gamins le font, où ils rentrent dans le pied. Le notaire donne tous les détails. Il dit qu'il monte trois marches, qu'il a trouvé une petite bougie, qu'il a trouvé une pelle, qu'il a trouvé un bout de planche, etc. Et il décrit tout. On peut refaire l'habitat.
Ce qui est formidable avec la recherche généalogique, c'est un subtil équilibre avec des données bien précises, bien solides. Et puis, la rêverie aussi que ça permet. Quand on tombe, comme vous le dites, Mario Dilmerniac, sur un acte notarié qui répertorie le nombre de casseroles, etc. Là, après, on laisse la place à l'imaginaire et à la rêverie, Mayalène Berasetegui.
Mais complètement. Il y a la rêverie avant, il y a les légendes familiales qu'on a et dont on veut savoir si c'est du Larousse ou du cochon, comme l'auditrice qu'on a entendue tout à l'heure. Et il y a ce qu'on arrive à réimaginer après, à partir de ce qu'on a reconstitué, en croisant aussi beaucoup avec des livres sur l'histoire locale, par exemple pour comprendre quelles étaient les circonstances météo, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'il y a eu des troupes qui ont débarqué, est-ce que... Et en reconstituant tout ça, là, on peut effectivement, comme vous le disiez François, se faire son propre film.
Oui, on se fait son propre film.
Et vous dites, Marie-Oudine Merniac, dans votre livre, qu'il est très important de s'intéresser au temps historique qui correspond à celui de nos aïeux.
Oui, pour découvrir comment la grande histoire a pu impacter la leur. Alors, il y a des régions qui sont plus propices à ça. Les régions de l'Est ont souvent été ravagées par les guerres. Le Nord, Pas-de-Calais aussi. Et on découvre des familles qui sont ruinées parce que toutes les fermes ont été incendiées. On a des drames familiaux. Et puis des succès aussi. Au moment du 19e, vous aviez des gens qui étaient simples tisserands et qui d'un seul coup, parce qu'ils sont doués pour la mécanique, se transforment en industriels et la famille connaît à ce moment-là un essor social et financier extraordinaire. Le 19e est vraiment un siècle où tout bouge.
Mais Yann Bérassetegui, bon, on a commencé à rassembler un tas d'informations. Comment ne pas s'arracher les cheveux devant la masse accumulée ? Comment bien s'organiser ? Là, c'est le moment où on peut se dire, allez, je lâche l'affaire, ça me fatigue d'avance.
Ne vous dites pas, vas-y, je vais prendre un cahier, puis je vais noter, informatiser le truc.
Il faut investir dans un logiciel.
Vous avez plein de logiciels qui sont gratuits, vous avez plein de sites qui proposent de faire des arbres en ligne gratuitement. Donc, faites un arbre, soit sur votre ordinateur, soit en ligne, comme vous voulez. L'avantage, si c'est en ligne, c'est que pour retrouver vos cousins, trouver plus d'infos, etc., c'est plus simple. Faites votre arbre et notez vos sources au fur et à mesure, c'est-à-dire notez de quel endroit vient chaque info. Si vous avez un peu la paresse, partez du principe que naissance, mariage, décès, ça va être de l'état civil ou des registres paroissiaux avant la Révolution, mais tout le reste, notez exactement d'où ça vient. Et à partir de là, quand vous revenez dessus 6 mois après, vous savez d'où ça vient et vous n'êtes pas perdu.
Oui. François Baron.
C'est essentiel de noter ses sources.
Voilà.
Je me bats quotidiennement pour que les gens notent leurs sources.
Marie-Louise Merniac.
Oui, déjà pour ne pas relire 3 fois le même registre en oubliant qu'on l'a déjà fait le mois d'avant.
Comment faire de cet état perdu, remettre au propre un petit peu toutes ces données, comment faire pour qu'on n'abandonne pas à ce moment-là de la recherche généalogique.
Alors on peut aussi se dire qu'on n'arrivera jamais à tout faire et qu'il y a forcément une branche, un personnage qu'on a envie de creuser, une branche qui a bougé, qui s'est déplacée, comme le disait Noé tout à l'heure. Pourquoi on a envie de creuser ça? On a envie de découvrir certains parcours individuels qui nous interpellent, certains parcours militaires, puisque là, les garçons ont connu quand même beaucoup de guerres autrefois, mais on a des archives militaires extrêmement riches. On peut redécouvrir presque des parcours au jour le jour, parfois.
François Baron.
Oui, pour illustrer le propos, moi j'ai une grand-mère qui me disait toujours que nous avions un ancêtre qui avait été lieutenant dans les armées napoléoniennes. Je n'avais jamais rien retrouvé aux archives militaires, jusqu'au jour où j'ai retrouvé qu'effectivement j'avais un des ancêtres directs qui s'était engagé dans la garde impériale entre 1813 et 1814, ce qui m'a fait lire une bible écrite par un lieutenant-colonel sur la garde impériale. Donc c'est aussi un élément de culture important, hein, cette généalogie.
Et aussi, vous n'êtes jamais tout seul. Il y a des spécialistes de tout sur Internet. Moi, je n'y connais vraiment pas grand-chose en histoire militaire. Vous avez des gens qui savent vous dire, à partir d'une photo, que tel numéro écrit sur telle pièce de vêtement, ça veut dire que c'est tel régime, en tel département, que le gars, elle est là. Ouais. Vous avez des spécialistes de tout et vous n'êtes pas seul.
À partir de quel moment on peut demander les conseils d'un généalogiste à toutes les étapes Yann Bérassetegui.
Oui, soit un généalogiste professionnel, typiquement si vous n'avez pas le temps et que vous voulez que quelqu'un fasse la recherche pour vous, et ça peut être depuis le début, vous lui donnez ce que vous avez et le généalogiste se débrouille, soit parce que vous êtes bloqué sur une branche et que vous voulez que la personne vous débloque ou qu'elle aille en archive pour vous à l'autre bout de la France, mais vous avez aussi des associations et puis des particuliers sur
et puis
sur
des forums en ligne,
il y a beaucoup de blogs.
Exactement.
Aussi.
Marie-Houdine Merniac, faire son arbre généalogique, c'est également d'accepter les surprises, les bonnes et les mauvaises. On ne sait jamais ce que le passé nous réserve, disait Françoise Sagan.
Oui, j'adore cette formule. Ouais. Effectivement, on a toujours des surprises, même si la famille semble modeste, des laboureurs, des paysans au départ, on a inévitablement des surprises dans les cousins, dans les ascendances. dans les lieux géographiques, ça fait également beaucoup voyager. Il faut se dire que nos ancêtres parcouraient... Allez, la moyenne, c'était 35 km à pied par jour quand on voyageait. Et ils n'hésitaient pas à prendre leur bâton de pèlerin pour se déplacer un peu partout.
Tiens, une question de Corinne en Gironde qui nous écrit « J'ai 56 ans, je suis née à Asnières-sur-Seine, je suis métisse d'un père européen, France métropolitaine, et d'une maman née en Martinique. Comme souvent, le nom de famille de ma mère date de 1848, fin définitive de l'esclavage. Avec cette situation, comment faire efficacement une recherche généalogique ?» Maïlène Berasetegui.
Alors, ça dépend de ce qu'on peut... déjà, il y a tout ce qui relève de l'affranchissement des esclaves. Il y a des documents là-dessus. Il y a efficace et efficace. Il y a de toute façon des documents... Il y a des associations spécialisées, déjà, auxquelles on peut faire appel, qui ont dépouillé notamment tout ce qui est registre notarié, archives judiciaires, des archives qui aident à compléter, comme ça. Tout ce qui est affranchissement, vous avez, pour ce qui est du nom de famille lui-même, en fonction de d'où il vient... vous avez des noms de famille qui parfois viennent de romans, viennent de pièces de théâtre de l'époque, des noms de famille qui sont en fait des morceaux du nom de famille de l'ancien propriétaire. Enfin, là-dessus, il peut y avoir des... Ça veut rarement rien dire, un nom de famille, dans ce contexte-là. Et aussi, c'est interdit en France, donc voilà, prenons en acte. Mais les analyses ADN peuvent aider à savoir notamment de quelle partie de l'Afrique... venaient certains ancêtres.
Nasser nous demande comment faire pour faire une recherche généalogique quand on est né en France et que ses parents sont nés en Algérie, comme c'est mon cas. François Baron, comment on fait quand ses aïeux sont nés dans l'une des anciennes colonies françaises ? Comment s'y prendre ?
Déjà, le colonisateur, il a rapporté son système administratif. Mmh. Donc, jusque... Alors, pour l'Algérie, c'est 1860, quelque chose comme ça, où on a commencé à considérer que l'Algérie était un département français. Donc, l'administration française a repris des actes d'état, le principe des actes d'état civil, naissance, mariage, décès. Donc
il faut s'adresser à Nantes, c'est ça ?
Alors, il faut s'adresser à Nantes.
C'est à Nantes, il y a un centre... voilà.
Oui, c'est pour moins de 100 ans,
moins de 100 ans, c'est ça. Il y a aussi des associations, faut s'appuyer beaucoup sur les associations. Il y a des associations spécialisées dans les recherches sur l'Afrique du Nord, qui, par exemple, j'en connais une qui s'appelle le GAMT, qui est Algérie, Maroc, Tunisie, généalogie, Maroc, Algérie, Tunisie.
Puis pour l'Algérie, ça dépend aussi quel statut avaient les ancêtres en Algérie. Et notamment, sur le site des ANOM, vous allez avoir numérisé toute une partie... des archives nationales d'outre-mer. Les ANOM, A-N-O-M.
Aix-en-Provence.
Vous allez avoir numérisé toute une partie de l'état civil de ceux qu'on appelait les Européens. Et donc, vous aurez aussi des descendants d'Espagnols, d'Italiens, etc. Mais pour des raisons diplomatiques assez compréhensibles, la France n'a pas récupéré l'état civil des, avec des gros guillemets, autochtones, qui lui est toujours là-bas. Et donc, du coup, ça dépend de qui étaient vos ancêtres en Algérie.
Oui, et en plus, il y a eu des numérisations qui ont été faites. Alors, pas de la totalité. Le reste devrait être rapatrié, mais ne l'est toujours pas. Les numérisations, l'Algérie a demandé à ce que soient masqués les actes concernant la population locale. Donc, aux ANOM, on se retrouve avec des images qui sont parcellaires, et pour remonter, il faut partir en Algérie.
Allez, dans un instant, quelles sont les erreurs à éviter quand on se lance dans un arbre généalogique ? Ce sera juste après avoir écouté Taylor Swift, dont il est peu probable, hélas, que nous ayons des ancêtres en commun. The Fate of Ophelia, quoique, on ne sait jamais. 10h44 sur France Inter.
love was a cold bed full of scorpions. The venom stole her sanity. And if you'd never called for me, I might have lingered in purgatory. You wrap around me like a chain, a crowd, a fire, pulling me into the fire. All that time I sat alone in my tower, you were just haunting your powers. Now I can see.
Swift, The Fate of Ophelia.
Grand bien vous fasse.
Je crois même qu'il y a une belle journée qui se prépare.
Ali Rebéi.
Ah bon ? Eh bien, grand bien lui fasse.
Sur France Inter.
Et ce matin, dans Grand bien vous fasse, comment réussir sa recherche généalogique avec les généalogistes Marie-Odile Merniac, Mayalène Berassategui et François Baron. Et nous accueillons Pauline. Bonjour Pauline, bienvenue.
Bonjour. Je vous
êtes bien sur France Inter. Quelle est votre question, votre témoignage, Pauline ? Quel est votre témoignage, votre question ?
Alors moi, je voulais vous dire que au-delà de la recherche des noms, des dates dans l'arbre généalogique, j'avais trouvé très intéressant lors d'un bilan de compétences, on m'avait demandé de faire un arbre généalogique des métiers de ma famille.
Ah, c'est intéressant.
Et en fait, je me suis rendu compte que, en fait, toute seule, je remontais pas bien loin. Mmh. Et du coup, ça a été une recherche vraiment passionnante que j'ai pu faire en. Alors, l'idée n'était pas de remonter là très très loin dans le passé, et pourquoi pas. Mais ne serait-ce que là déjà de remonter même aux arrière-grands-parents, on ne sait pas forcément ce qu'ils faisaient. Et finalement, c'est assez révélateur sur ce qui fait partie de nous et nos aspirations, et donc de rechercher les métiers ou les loisirs
Et qu'est-ce que vous avez découvert, Pauline ? Qu'est-ce que vous avez découvert et qu'est-ce que ça vous a apporté ?
Eh ben alors, j'ai découvert déjà que finalement, que aussi loin que je pouvais remonter, tout le monde, dans mon cas, je suis plutôt dans une filière culturelle et artistique, et que finalement, même ceux que je connaissais qui travaillaient dans la banque avaient fait du mécénat et s'étaient intéressés aux arts, et que finalement, chaque personne que je recherchais avait un lien et quelque chose, un rapport avec les arts. Et mon mari s'est intéressé à ça et a fait aussi ce même travail. Et finalement, on découvre en faisant ça, donc, soit des lignées de personnes qui vont avoir quand même les mêmes voies, ou au contraire des virages drastiques, et où d'un seul coup, on va prendre une autre voie en se disant « bah non, moi, la science, c'est pas possible, je me dirige vers autre chose ». Enfin, voilà, il y a des réactions, mais finalement, quand on met tout à plat, puis après, c'est le fait d'aller poser ces questions et puis d'un coup de s'intéresser un peu plus, où il est né, où il est mort, etc., mais à s'intéresser vraiment sur ce que faisaient nos ancêtres. C'est assez révélateur. Et j'avais bien aimé faire ce travail. Je trouve que c'est intéressant de donner. Pardon.
Oui, effectivement, les métiers sont beaucoup plus mobiles et variés aujourd'hui. À partir du 19e, on indiquait le virage et la multiplication des types de métiers. Autrefois, on va beaucoup trouver des dynasties entières de paysans. Alors, l'univers paysan était morcelé socialement aussi. Entre laboureurs et journaliers, il y avait un écart énorme. Ou des lignées de meuniers. Alors là, les meuniers, ils étaient tellement fiscalement surveillés qu'on peut remonter jusque dans les années 1200. Enfin, François Baron pourrait parler des meuniers beaucoup plus longuement, mais parce qu'on a les registres fiscaux qui existaient avant l'état civil et qui permettent de remonter ces branches-là.
Ce qui est intéressant aussi, ce sont les métiers qui donnaient des patronymes.
Oui, oui, oui. Quand les noms se sont créés, effectivement, vers le 12e, 13e siècle, on a 20% de nos noms de famille qui indiquent le métier de l'ancêtre initial. Mmh. Alors, bon, boulanger, c'est sans surprise, mais par exemple, le nom occitan Pou de Vigne, on se dit qu'est-ce que c'est ? Et en fait, Pou da Vigna, c'était la serpette pour tailler la vigne. Mmh. L'ancêtre était vigneron.
Et vous avez écrit un livre passionnant sur les noms de famille, Marie-Odile Merniac. Merci beaucoup, Pauline, de nous avoir appelés. Et nous accueillons Sidonie. Bonjour, Sidonie.
Oui, bonjour.
D'où appelez-vous, Sidonie ?
De Reims.
Alors, quelle est votre question, votre témoignage ?
Alors, en fait, moi, j'avais une question par rapport à la recherche de, plus particulièrement, des causes de la mort. En fait, j'ai un ancêtre qui est mort noyé pendant la période de Noël, et il y a juste un article dans le journal 2 mois plus tard pour dire que son corps a été retrouvé et qu'une enquête va être menée, mais après, plus rien. Donc, dans la famille, on se demande si c'est un suicide, si c'est un accident, et j'aimerais savoir s'il était possible d'accéder à l'enquête de cette période-là.
Dans les archives policières, c'est à quelle époque ?
C'est début du XXe siècle, début 1906.
1906, Mayalène Berasetagui. Je rappelle que vous êtes également historienne.
Ouais, j'ai envie de dire, ça dépend où, parce que la difficulté, c'est que les archives ne peuvent pas tout garder. Donc, des fois, elles gardent des exemples, des petits bouts de séries, notamment quelques dossiers d'enquête pour que les historiens puissent les étudier plus tard, mais pas forcément tout. Là, regardez dans les mains courantes de la police, donc aux archives départementales ou aux archives de la police si vous êtes à Paris. Regardez dans les archives judiciaires éventuellement, et vous allez avoir différentes sources. Vous pouvez aussi avoir des archives d'instituts médico-légaux, s'ils existent pareil, si c'est en ville. Donc, il n'y aura pas rien. Mais c'est pas dit que vous aurez un dossier d'enquête en bonne et due forme, mais peut-être au moins une main courante.
En tout cas, enquêtez, Sidonie. Et merci beaucoup de nous avoir appelés. Allez,
merci.
À ce stade de l'émission, quelles sont pour vous les erreurs les plus fréquentes quand on débute un arbre généalogique ? Ce sera un peu une synthèse en cette fin d'émission. J'ai repéré 10 erreurs fréquentes sur le site de la Fédération française de généalogie. François Baron, vous en êtes l'un des administrateurs.
Oui.
C'est quoi la première erreur ?
Ne pas commencer trop vite par Internet.
Oui.
Parce que ça paraît effectivement la solution de facilité. Il faut d'abord commencer, comme on le disait tout à l'heure, par interroger la famille, récupérer les documents, les photos.
Ensuite, négliger les sources primaires.
Les sources primaires, c'est-à-dire ce sont les documents originaux. Alors, on ne peut plus forcément y accéder, puisqu'on n'a plus accès au format papier, mais quasiment tous les sites d'archives ont numérisé les archives d'état civil, les archives ecclésiastiques. Donc, il faut d'abord commencer par ça. Et puis, les autres documents comme les actes notariés, les archives militaires, etc.
Erreur, ne pas noter ses sources.
Alors ça, c'est une erreur du débutant. Quand on commence, on a l'impression qu'on va se souvenir de tout, et puis on s'aperçoit très vite qu'on compile énormément d'informations. Donc il faut tout noter.
Yann Berasetagui, autre erreur, et vous l'avez un peu évoqué tout à l'heure, pensez que tout est en ligne.
Alors tout n'est pas en ligne, parce que numériser des documents, ça demande quand même pas mal d'argent. Donc les archives privilégient des sources qui vont être plus faciles à lire ou qui vont concerner beaucoup de personnes, des recensements, des archives militaires, etc. Il y a beaucoup plus d'archives en salle d'archives.
François Baron.
Alors, il y a des archives qui sont numérisées un peu particulières. Les archives des Yvelines ont, par exemple, numérisé les permis de conduire. Pour en avoir parlé avec les responsables, ils ont une dizaine de demandes par semaine de collectionneurs de voitures. Donc, rien à voir avec la généalogie.
Pourquoi est-ce une erreur, Marie-Odile Merniac, de ne se focaliser uniquement que sur les ascendants ? Pourquoi c'est une erreur ?
Parfois, on peut perdre une piste. Et si on n'a pas noté les frères, les sœurs, les parrains, marraines des enfants, on peut ne pas retrouver le fil conducteur qui nous aurait mené au bon endroit pour renouer la piste.
Mais Berasetagui.
En fait, par exemple, à partir d'une certaine époque, typiquement sur les actes de mariage, vous n'avez pas les parents des mariés. Et donc, si vous avez juste les parents des mariés, vous dites, je vais décider qu'en fait, c'est la personne qui a le même nom, le même prénom, puis qui est née dans le même bled 20 ans avant, en fait, vous n'en savez rien. Et quand vous vous êtes rendu compte de ça, et que vous avez remonté encore sur 200 ans cette branche-là, et que c'était des heures de perdu, enfin c'était sympa comme recherche, mais c'est, vous risquez vraiment de tomber sur un mur après.
Autre erreur, c'est d'utiliser un logiciel sans méthode, et également de rechercher uniquement par les noms. Éclairez-moi un peu sur ce point de cette erreur que j'ai repérée sur le site de la Fédération française de généalogie.
Rechercher uniquement par les noms, parce qu'il peut y avoir plusieurs familles qui portent le même nom. Par exemple, je prends mon exemple, Baron, on en trouve un petit peu partout en France, et en particulier dans la région d'origine de ma famille, on retrouve 3 familles Baron, dont aucune archive ne permet de dire qu'ils ont un lien quelconque.
Et là, également, allez-y, pardon.
Oui, et puis autrefois, on disait que les noms n'avaient pas d'orthographe. Donc, ils étaient notés phonétiquement. Donc, le nom Oudier, par exemple, peut être orthographié Oudier avec un H, avec un O, avec un A, et vous risquez de passer à côté de vos ancêtres.
Et puis, parmi les erreurs, oublier de sauvegarder son travail, évidemment, et puis se décourager trop vite, hein. On essaye d'être tenace dans sa recherche.
Accrochez-vous et puis vraiment, prenez-y du plaisir. Enfin, allez vers ce qui vous vend le plus de rêves. Voilà. Si c'est le grand-père militaire, foncez. Si c'est la grand-mère infirmière, foncez. Si c'est le grand-père paysan du 16e, foncez. Voilà.
Et nous accueillons pour terminer Lynn. Bonjour Lynn, bienvenue.
Bonjour.
Bienvenue. Quel est votre témoignage, votre question ?
Je voulais vous remercier parce que j'aime bien les recherches généalogiques. Mm-hmm. Et puis la mienne que je faisais pour un ami, c'était un peu tari, faute mm-hmm. de preuves et d'éléments. Et puis là, je me suis relancée et puis c'est reparti. J'ai trouvé des nouveaux éléments.
Ah, racontez-nous, Lynn.
Là, l'objectif, c'est de trouver la sépulture de son ancêtre.
Ouais.
Et donc j'avais écumé les cimetières parisiens, les cimetières de ses lieux de famille, je n'avais pas trouvé.
Mmh.
Et là, j'ai trouvé sur le site Généanet une tombe il semblerait sa tombe, puisqu'il y a sa mère et son père aussi, a priori. Donc maintenant, il suffirait de trouver où se trouve cette tombe.
Bon, mais écoutez, bonne enquête, François Barrault.
Voilà, l'enquête se poursuit.
Oui, alors, la recherche des tombes, c'est quelque chose de très intéressant, parce que on peut même aller passer des vacances, comme je l'ai fait avec mon épouse, aller gratter dans les cimetières britanniques pour aller rechercher la tombe de l'ancêtre. Et ça permet de faire du tourisme aussi en même temps.
Merci beaucoup, Lynn. Et c'est vrai, ce qui est vraiment formidable avec la généalogie, c'est cette possibilité de partager ses trouvailles avec les proches. Et pourquoi pas créer un blog, écrire un livre ou créer un petit site internet de cet arbre généalogique. Merci beaucoup les uns les autres. Merci Marouidine Merniak. La généalogie s'est publiée aux éditions Erol. Merci Mayalène Berasset-Tagui. La généalogie pas à pas s'est publiée chez Librio. Et merci François Barrault. On peut aller visiter le site les jeunes
et la généalogie.
Et la généalogie.
Et le site de la fédération, genefédé.eu.
Allez, une émission à podcaster, à partager sur l'appli Radio France. Demain, journée spéciale sur France Inter. Et à l'occasion de l'émission spéciale BD, et bien comment la BD, la bande dessinée peut aider les enfants à lire. Bonjour Nagui, bienvenue.
Bonjour Ali.
Et vous savez que je peux vous appeler cousin parce que j'ai fait notre arbre généalogique.
Alors,
et en fait on a des ancêtres communs.
Oh, forcément. De toute façon, ces gens-là, ils sont tous cousins. Laisse tomber.
C'est un peu ça.
Laisse tomber.
Leïla Kadour Boudadi, on a un peu
cousin. C'est ma cousine, c'est ma petite, c'est ma sœurette. Laisse tomber. Vas-y frérot.
Allez, les gros clichés, c'est bien.
C'est exactement ça. C'est vraiment, vous pouvez pas être mieux dedans là.
Alors on est bien, on plonge jusqu'au cou.
Êtes-vous hypochondriaque?
Un poil, un petit peu.
Ça veut dire complètement.
Voilà, c'est ça. Eh ben, on reçoit l'enquêteur, le commissaire le plus hypochondriaque. Il y a trop de syllabes pour moi.
Ouais.
César Wagner, puisque c'est à la fois Gilles Alma et
Olivia Cotte.
C'est ça.
Et bonne émission, mon cher Nagui. Ça promet une bonne émission.